Comment les technologies de l'information et de la communication peuvent-elles aider les malades? C'est le thème de notre émission aujourd'hui. Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition de Bulle Santé. Pour parler de l'impact thérapeutique de ces technologies, nous sommes au sein de la Maison des Projets de l'Institut Gustave Roussy à Villejuif, où Giovanna Marsico nous fait l'honneur de nous accueillir. Giovanna, bonjour.
Bonjour.
Giovanna, vous êtes bien connue dans l'univers de l'Internet Santé. D'origine italienne, vous êtes avocate, mais aussi responsable du pôle citoyen de l'association Cancer Campus à Villejuif. J'ajoute que vous dirigez la plateforme Cancer Contribution, un site web dédié à l'expérience du cancer. Quel est l'objectif de ce site?
La plateforme Cancer Contribution souhaite impliquer patients et citoyens dans l'élaboration des politiques de santé publique dédiées au cancer et dans la création des pratiques professionnelles.
Merci pour ces quelques précisions. Nous n'avons pas tout à fait fini de dresser votre portrait, puisque en parallèle de cet espace de travail collaboratif dont vous venez de parler, vous êtes aussi cofondatrice de la société Patients et Web. Alors, quelles informations recherchent en premier les patients sur Internet?
Les patients vont d'abord sur Internet pour chercher des informations sur la maladie. Un deuxième degré, l'information pointe vers les traitements et les effets adverses des traitements. Et puis, je dirais qu'il y a une troisième position, alors la troisième recherche est celle de l'orientation au sein du système de santé. Donc, les patients vont sur Internet pour chercher le bon hôpital, le bon professionnel et pour pouvoir s'adresser et avoir une prise en charge correcte.
Est-ce que l'on a une idée du pourcentage de malades du cancer qui utilisent Internet?
Non, on ne peut pas segmenter les usagers d'Internet et les internautes en fonction de la pathologie. En revanche, on peut savoir qu'un Français sur deux va sur Internet pour faire de l'information santé et que sur les patients connectés, il y en a un bon presque 40% qui se connectent de façon régulière, au moins une fois par semaine, pour faire des recherches sur sa pathologie.
Précisément, à défaut de savoir le pourcentage des malades du cancer qui utilisent Internet, est-ce que l'on dispose de données sur la fréquentation des sites Internet santé?
Chaque site Internet a ses statistiques, donc on sait très très bien et on peut effectivement identifier les patients, les usagers en fonction de leur relation à la maladie, de leur origine géographique, même de leur fréquentation en termes d'établissement de santé. Ça c'est très clair, mais chaque site a ses pourcentages. Ce qui est par exemple assez étonnant, c'est de voir qu'un site comme Doctissimo est un site qui a 9 millions de vues chaque mois. Ce qui veut dire que c'est vraiment très très important ce besoin d'interaction avec Internet à propos des pathologies.
En matière d'Internet santé, c'est le site qui rassemble le plus d'internautes?
Oui, je pense qu'aujourd'hui en France, oui, c'est tout à fait le cas. C'est le site Doctissimo est le site le plus fréquenté.
Y a-t-il, puisqu'on parle de statistiques, des études cliniques sur les patients connectés, par exemple, sur l'impact de leur pratique par rapport au traitement?
Il commence à y avoir des études cliniques, effectivement. Je pense à l'Institut des Mines, je pense à l'Université de Bordeaux qui mène des études sur les pratiques des patients sur Internet. Pour l'instant, ils sont plus concentrés sur la question de l'information et les usages collaboratifs, donc l'expérience des pairs. Sur l'observance, il y a l'Institut Curie qui vient de faire un rapport. Et de son rapport, apparemment, l'information sur Internet ne change pas forcément la relation thérapeutique. Donc pour l'instant, on n'a pas encore, en France, on n'a pas encore énormément de données. En revanche, aux États-Unis, le site Pew Internet, il fait énormément de recherches et apparemment aux États-Unis, les pratiques changent effectivement grâce aux nouvelles technologies, notamment en termes d'observance.
On entend beaucoup le terme e-patient. Concrètement, qu'est-ce que ça signifie un e-patient?
Alors, le e-patient est un patient qui, en général, est atteint d'une maladie grave ou chronique et qui utilise Internet non seulement pour s'informer sur sa pathologie, pour chercher des réponses par rapport au traitement, aux effets adverses, mais aussi qui crée de l'information sur Internet. Donc le e-patient participe à constituer une science citoyenne à travers l'outil numérique. Donc il participe à des communautés, il participe à des études, il participe à des recherches effectives qui permettent de prendre en compte non seulement l'aspect strictement clinique de la maladie, mais la pathologie en général.
C'est intéressant cette dimension participative que vous décrivez, parce que finalement un patient qui, entre guillemets, se contente, ce qui est déjà énorme, de lire de l'information sur sa pathologie, n'est pas considéré comme un e-patient dès lors qu'il ne contribue pas en créant du contenu.
Absolument. On est aujourd'hui, on est tous plus ou moins connectés, on fait tous des recherches sur Internet, que ce soit pour regarder l'horaire d'un film, plutôt qu'un restaurant, plutôt qu'un hôpital. Quand là, sur cette dimension, on est simplement des internautes. Donc, tout le monde est un internaute aussi santé. On devient e-patient quand il y a une implication et quand on élabore avec les autres internautes des connaissances qui sont utiles pour les pairs.
Ces technologies de l'information et de la communication permettent, vous l'avez dit, de créer du contenu, mais est-ce que leur rôle n'est pas avant tout d'échanger, de soutenir le moral de ses pairs plutôt que de soigner ?
Je ne crois pas que l'internaute santé ait la vocation de remplacer le médecin. Je pense que l'internaute patient qui engage sa contribution sur Internet et évidemment l'envie de partager son expérience avec ses pairs, a envie de chercher ces informations que le professionnel de santé ne livre pas pour manque de temps, mais aussi pour manque de perception, de représentation sur les besoins effectifs d'un patient. Aujourd'hui encore, dans une consultation, le fond de la consultation se base sur la pathologie, sur comment traiter la pathologie. Donc tous les aspects de la vie avec la pathologie peuvent être mis de côté et les patients peuvent ne pas avoir envie ou ne pas oser poser des questions sur les aspects qui entourent la pathologie mais qui impactent la vie du patient. Et c'est sur Internet, c'est dans les communautés de pairs qu'on trouve ces informations-là et qui sont nécessaires pour pouvoir avoir une qualité de vie correcte.
Est-ce que cela signifie qu'on ne peut pas véritablement soigner à distance ?
On peut faire du suivi à distance, mais les soignants restent... Donc là, vous êtes en train de me demander si le soin à distance est proposé par les malades ou par les professionnels ?
Exactement.
Voilà. Bon. Donc, le soin est délivré par les professionnels de santé. Les internautes, les communautés ne sont pas des soignants. Mais les communautés interviennent pour améliorer la qualité de vie, pour alerter sur des questions qui ne sont pas vues ou perçues par le malade ou par le professionnel, notamment je pense aux effets adverses. Et puis elles peuvent être très très utiles pour renforcer l'engagement dans l'observance. Donc tout ce qui est suivi. Le suivi aujourd'hui avec les nouveaux traitements, notamment les chimiothérapies orales par exemple, sont faits à la maison. Et le lien avec l'équipe médicale devient plus ténu, moins fréquent. Donc c'est là que c'est nécessaire d'avoir un suivi, une participation à un renforcement des motivations qui est justement proposée par les communautés.
Vous nous avez tout à l'heure défini ce qu'était un e-patient. Pouvez-vous à présent nous expliquer ce qu'on appelle un patient expert ?
Un patient expert n'est pas nécessairement un patient qui va sur Internet. On peut être patient expert sans aller sur Internet. Sans doute, Internet, avec la démocratisation des savoirs et l'accès aux connaissances, améliore la formation des patients experts. Le patient expert est celui qui, par sa maladie, par la relation constante et quotidienne avec sa maladie, donc on revient à maladie grave ou chronique, arrive à prendre du recul vis-à-vis de sa situation personnelle pour élaborer des connaissances et en faire profiter à ses pairs, qui sont des connaissances générales, qui sont des connaissances qui profitent à tout le monde, à tout patient.
Et précisément, puisqu'elle profite à tous les patients, comme vous venez de le dire, est-ce que vous avez le sentiment que l'expertise des patients experts aujourd'hui est suffisamment valorisée ?
Ah ben non. 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 Alors, effectivement, les patients experts d'un certain cadre de prise en charge pathologique deviennent des membres de l'équipe. Je pense par exemple aux maladies inflammatoires de l'intestin, ce qu'on appelle les MIKI, je pense au diabète, où effectivement les patients experts interviennent dans la formation des nouveaux patients à travers l'éducation thérapeutique. Dans le cancer, cette participation est encore très très modeste.
Est-ce que le corps médical voit tout ça d'un très bon œil, notamment l'idée des technologies de l'information et de la communication au service des malades ?
Alors, je reviens à cette communiqué de presse qui a été fait par l'Institut Curie juste il y a 2 jours. Et apparemment, de l'étude faite par l'Institut Curie, il semble que les professionnels de santé soient très intéressés à l'impact que les nouvelles technologies peuvent avoir sur la prise en charge et sur la relation thérapeutique. De mon expérience, je pense que cette parole est encore assez théorique et que l'éducation des professionnels de santé sur l'usage des nouvelles technologies par les patients nécessite une mise à point. C'est-à-dire que le patient qui va sur Internet, qui cherche des informations, est aussi un patient qui arrive en consultation avec des choses à dire. Et forcément, ça change l'équilibre relationnel entre l'expert sachant et la personne sans connaissance. Le patient arrive avec des connaissances. Ceci entraîne une perte de temps, entre guillemets, pour le professionnel de santé, entraîne la nécessité de devoir donner des explications ultérieures, de convaincre éventuellement le patient de la pertinence des indications. Mais à mon sens, c'est effectivement une démarche qui est nécessaire, d'abord parce que tout le monde va sur Internet.
Mais est-ce que finalement, tout ça ne change pas le rapport de force entre le patient et son médecin, puisqu'on n'est plus dans cette logique d'autorité suprême, mais d'échange, je ne dirais pas d'égal à égal, mais comme vous l'avez dit, le patient arrive avec tout un bagage de connaissances.
Oui, absolument. Mais cette modification de la relation thérapeutique à ces prémices depuis très longtemps, bien avant Internet. C'est déjà à partir de la période du sida et puis des états généraux des malades que les malades ont commencé à réclamer la prise en compte de leurs valeurs, de leurs préférences et de leurs connaissances au sein de la consultation et au sein donc de la relation thérapeutique. C'est clair que les nouvelles technologies entraîne un potentiel énorme parce que permet effectivement aux patients d'aller chercher, de faire des recherches, d'aller consulter d'autres avis, d'aller consulter surtout l'avis de leur père. Il faut savoir que chaque année, il y a environ 27 000 essais cliniques qui sont mis en place. Pour un professionnel de santé, c'est impossible de suivre toute la recherche qui se fait annuellement. Donc un patient qui élabore des outils de recherche, de bons outils de recherche, est un patient qui peut aller sur Internet, qui peut chercher ces informations et qui peut les partager avec le professionnel de santé. Donc aujourd'hui, il y a des professionnels de santé qui sont ravis d'avoir des patients qui leur amènent des compétences et des informations qui sont utiles pour leur pratique.
Après avoir balayé les grandes tendances de l'information santé, parlons à présent des usages. Précisément, pouvez-vous nous dire quels sont les différents outils et supports pour accompagner les malades du cancer ?
Les principaux outils sont effectivement les sites d'information. Il y a des sites de matrice de caractère associatif, il y a des sites institutionnels qui sont, je dirais, d'accès moins facile. Il y a des sites communautaires et il y a des sites privés. Soit d'industriels, soit d'acteurs privés. Alors, ce qui me semble important, c'est que les patients puissent avoir une idée précise de la source de l'information qu'ils sont en train d'évaluer et donc de pouvoir récolter plusieurs informations différentes pour pouvoir se faire une idée assez complète de la réponse qu'ils souhaitent avoir.
Dans ce panorama très complet que vous nous avez dressé, y a-t-il des supports numériques que vous recommandez particulièrement ?
Les supports numériques, je reviens à la question des sites, ce sont les sites d'information. Et puis, moi, ce que je recommande, c'est surtout les sites institutionnels et les sites associatifs. Et puis, des applis. Il y a aussi des applis qui sont très utiles pour vivre avec la maladie. Je pense à, dans le traitement, dans les chimiothérapies, il y a une appli comme iChemio Diary, qui permet de noter tous les effets adverses qu'on retrouve dans le suivi du traitement. Et ça peut être extrêmement intéressant pour la personne malade de pointer les conséquences, l'impact que la chimio a sur son état général de santé, de le partager avec son propre médecin.
Sur Internet, on trouve énormément d'informations. Que faut-il, selon vous, rechercher ? Plutôt les avis des professionnels de santé ou plutôt les avis des internautes ?
Ce sont deux recherches différentes qu'on fait justement selon des formulations différentes de la question. Si on cherche une réponse sur une question strictement pathologique ou sur une question de prise en charge, clairement, un site d'hôpital ou un site de recherche universitaire ou un site hospitalier, vous la recoupez, sont effectivement ont tendance à donner la meilleure réponse. Mais si on cherche une réponse à une question sur la qualité de vie, notamment sur comment pouvoir partir en vacances avec une chimiothérapie, comment pouvoir régler une question relative aux ongles, à toutes ces pathologies qui s'installent quand on est sous traitement. Alors là, c'est sans doute l'expérience des pairs qui est précieuse, qui est très utile.
L'expérience des pairs sur tous ces sujets de qualité de vie notamment, on la trouve entre autres sur les forums de patients. Que pensez-vous précisément de ces forums ?
Les forums de patients sont très utiles. Il faut avoir une éducation pour pouvoir bien s'orienter dans les forums de patients. D'abord, il faut savoir que quand on tombe sur un forum, quand on cherche dans un forum, on peut retrouver des informations qui sont très personnelles. Et on peut retrouver des informations qui viennent d'un malade qui a pris du recul. Donc, les informations qui sont très personnelles appartiennent à chaque malade. On ne peut pas faire du transfert sur les informations qu'on trouve et qui appartiennent à l'historique d'un malade. Notamment sur le cancer, on sait que cette pathologie est extrêmement, extrêmement complexe, que chaque malade a des réactions différentes, que chaque traitement est cousu sur la personne. Donc évidemment, les expériences de chaque malade changent et ne sont pas comparables l'une à l'autre. En revanche, il y a un socle général qui est celui des connaissances expérientielles, et ce socle général peut être extrêmement utile à tout le monde. Donc, pour pouvoir aller sur le forum, il faut savoir, en départ, prendre en compte cette spécificité. Je suis malade, j'ai mon cancer à moi, j'ai mon équipe médicale qui me suit et je cherche des informations complémentaires. Mais ce n'est pas parce que l'autre personne que j'ai vue sur Internet, que j'ai trouvée sur le forum, a la même maladie que moi et a des conséquences différentes des traitements que je vais vivre la même chose.
Sur ces forums, on peut souvent obtenir des réponses très très rapidement. Est-ce que cette immédiateté est vraiment un plus pour le patient ?
Je pense que si. Je pense que absolument oui, parce que quand on a besoin des réponses, on a besoin de réponses la nuit, on a besoin de réponses en vacances, ou on a besoin de réponses le week-end, on a besoin de réponses au moment où on peut être angoissé, on peut ne pas avoir accès à accès aux professionnels de santé. Donc oui, c'est très très utile d'avoir la réponse au moment même où la question surgit. Après, je reviens, je recommande de partager avec l'équipe médicale, avec les professionnels de santé, les informations qu'on retrouve sur Internet. parce que ce sont un terrain de discussion et parce que c'est important de les recadrer en fonction de son propre historique.
Vous l'avez dit tout à l'heure, les transferts peuvent être anxiogènes. À l'inverse, ces réponses très rapides ne peuvent-elles pas parfois donner de faux espoirs aux patients ?
Oui, sans doute, mais la question est toujours comment on se positionne quand on va chercher sur Internet. Bien sûr, on peut trouver des faux espoirs, mais les faux espoirs, on peut les retrouver aussi dans la presse générale quand le matin suivant la conférence internationale, on trouve l'intitulé « Super, on a trouvé le traitement pour l'un tel cancer et l'autre encore ». C'est-à-dire que forcément, quand on est malade, on cherche de garder l'espoir. Et l'espoir, voilà, on l'alimente avec plein d'informations, plein de communications différentes. Internet n'est plus générateur d'espoir ou générateur d'angoisse que d'autres sources. La question est toujours comment s'éduquer à utiliser Internet pour pouvoir faire ci qui soit le plus cohérent avec son propre cas.
Le fait de partager sur Internet son ressenti ou ses bonnes pratiques, est-ce que finalement ça a un effet un peu cathartique ? Est-ce que ce n'est pas précisément là que repose le principal bénéfice pour les patients ?
Je crois qu'effectivement, quand on vit une maladie grave, l'isolement de son propre cercle, de son propre environnement est très compliqué à vivre. Quand on est malade, même les membres de sa propre famille, les proches, ne partagent pas forcément l'expérience, parce que quand on est malade, l'expérience est vraiment singulière et individuelle. Et aller chercher le contact avec des personnes qui vivent une expérience très proche à la sienne est effectivement très, très, très rassurant, parce qu'on sait que l'autre sait exactement de quoi on parle.
Alors, si en théorie, Internet est un outil très démocratique, en pratique, est-ce qu'il n'est pas trop clivant au sens où tous les patients n'ont pas les mêmes facilités d'écriture et encore moins les mêmes modalités d'accès à ces nouvelles technologies de l'information ?
Je pense que ce sont deux questions différentes. L'éducation à Internet fait partie de l'éducation en général à la santé. C'est vrai qu'on peut avoir des approches différentes, mais justement, la démocratisation d'Internet est celle qui permet à la personne qui a un niveau culturel, un niveau d'éducation très bas, de pouvoir de toute façon écrire, même avec des fautes de grammaire, et elle va recevoir des réponses qui sont en général respectueuses. On ne juge pas l'internaute pour la capacité de s'exprimer sur les forums. Différemment, la question de l'équipement l'équipement numérique pour les citoyens. Effectivement, il y a encore des régions de France qui sont relativement moins équipées que le reste du pays. Il y a des personnes qui, par rapport à leur âge, par rapport à leur milieu, ont un moindre accès. C'est vrai que ça crée des différences, mais je suis toujours persuadée que l'impact de cette évolution, même s'il n'est pas partagé directement par tous les patients, a en tous les cas des effets bénéfiques pour tous les patients. Je prends l'exemple de l'éducation des professionnels à la discussion avec les patients. Le fait qu'Internet soit disponible pour certains patients et que donc mette certains patients en condition de discuter avec les professionnels, ça génère après une évolution dans la pratique du professionnel qui, même avec d'autres patients pas équipés, pas e-patients, sera plus à même d'écouter ou de rechercher, d'enquêter sur les préférences et les valeurs du patient.
On parle beaucoup d'éducation thérapeutique des patients. Précisément, pour faire suite à ce que vous venez de nous expliquer, est-ce qu'il ne faudrait pas aussi mettre en place une éducation numérique des patients ?
Oui, je pense que l'éducation numérique devrait, au-delà des patients, devrait être mise en place pour tout citoyen. Pourquoi ? Parce que on dit souvent que sur Internet, il y a tout et n'importe quoi. Et on a beaucoup entendu parler de labellisation, de contrôle, d'encadrement de l'information sur Internet. Aujourd'hui, on sait très bien que ce n'est pas possible, qu'on ne peut pas contrôler l'information qui se produit sur Internet. Ce que l'on peut faire, en revanche, c'est éduquer l'internaute à faire des bonnes recherches, à se positionner sur Internet avec un esprit critique.
Éduquer l'internaute, vous venez de le dire. Précisément, est-ce que c'est ça, le patient empowerment?
L'éducation à l'esprit critique est sans doute un des éléments qui contribue à l'empowerment des patients. L'empowerment est l'autonomisation des patients. Donc, on devient de plus en plus autonome en fonction de la capacité que chacun élabore, aider ou pas aider, à vivre avec la maladie et à faire si que l'impact de la maladie sur sa propre vie soit le moins lourd possible.
Vous évoquiez tout à l'heure le changement de rapport de force entre patients et médecins. Est-ce que précisément l'Internet santé est aussi une source d'information pour les soignants?
Absolument, si. Bien sûr, les professionnels de santé consultent très régulièrement Internet, que ce soit pour une recherche d'actualité, pour chercher des informations relatives à la recherche, pour se mettre en lien avec d'autres professionnels. Il y a beaucoup de communautés de professionnels aujourd'hui qui permettent d'échanger en temps réel sur des cas cliniques, sur des situations complexes. Donc, sans doute, aujourd'hui, les professionnels sont très, très impliqués sur le numérique. La question que je me pose est: quand est-ce qu'on arrivera à faire si qu'entre professionnels et patients, les deux univers numériques vont pouvoir s'entremêler?
Converger. On en vient à présent à la troisième partie de cette émission concernant les dispositifs. Précisément, comment peut-on améliorer la qualité de l'information santé qui est diffusée sur le web?
Je reviens à mes propositions. D'une part, c'est la mise en place de formations pour les patients et les citoyens à l'usage d'Internet. Cela pourrait être effectivement, comme c'est le cas de cette émission, une fonction associative. Donc, il y a certaines associations qui sont déjà impliquées sur l'aide à l'éducation des patients, notamment Tribu Cancer. Et puis, d'autre part, c'est l'implication des professionnels de santé à élaborer des programmes qui permettent effectivement qu'ils soient mis à disposition des patients pour que les patients puissent s'éduquer au fur et à mesure. Donc, je pense que c'est vraiment un cadre éducatif qui est à mettre en place.
Que diriez-vous à un patient réfractaire aux nouvelles technologies pour l'inciter à les utiliser?
Je ne pense pas qu'on puisse obliger personne à utiliser les nouvelles technologies. En revanche, je peux dire effectivement à un patient que il va pouvoir réduire son isolement, il va pouvoir trouver des informations adaptées, personnalisées, et il va pouvoir s'entourer de personnes qui vivent la même expérience que lui, et donc de pouvoir échanger avec des pairs. Et ça, c'est une expérience extrêmement formatrice.
Encore faut-il qu'il ait accès à ces nouvelles technologies. Or, à l'heure actuelle, en milieu hospitalier, on constate que l'accès numérique est encore médiocre ou très cher. Est-ce que ça ne devrait pas être, selon vous, une priorité?
Sans doute, les hôpitaux, le travail des hôpitaux de permettre un accès facile aux patients, ça serait le bienvenu. Il faut aussi dire que, d'autre part, qu'aujourd'hui, le système de santé est en plein changement, que les hospitalisations se réduisent en termes de temps et que les patients passent beaucoup de temps au domicile. Et c'est là que, justement, est important, éventuellement, d'assurer que le passage entre l'hôpital et la ville soit accompagné par des dispositifs numériques et IRL qui permettent aux patients justement d'être toujours accompagnés de façon correcte et de ne pas se sentir abandonnés par la structure hospitalière.
À l'heure qu'il est-ce que l'on peut dire que l'Internet santé, c'est pour tout le monde?
Oui, tout à fait. L'Internet santé est vraiment pour tout le monde. Comment faire si que tout le monde puisse en profiter? Ça reste encore un travail à mener au jour le jour.
Parlons à présent, si vous le voulez bien, des certifications santé Internet. La fondation Health on the Net Foundation, HON, a par exemple élaboré des principes de bonne conduite. Le but de ces principes, c'est de certifier certains sites web médicaux et de santé. Que faut-il penser de ce type de charte?
La charte élaborée par HON est effectivement une charte intéressante. Elle permet de s'assurer que le site, que chaque site réponde à des critères établis. Or, quant à son utilité, on sait que l'Haute Autorité de la Santé, qui avait établi un partenariat avec HON, a décidé d'arrêter parce que, en tous les cas, les patients ne vont pas chercher l'étiquette HON sur les sites qu'ils fréquentent. Donc, ce n'est pas la labellisation qui rend un site intéressant, c'est son contenu.
Vous êtes, au-delà de votre implication dans l'Internet Santé, avocate, je le disais. Précisément, en tant que juriste, pensez-vous qu'il faille un cadre législatif spécifique à l'Internet Santé ?
Alors, deux choses. D'abord, il faut savoir que l'Internet permet de dépasser les frontières. Donc, on peut avoir des cadres législatifs, mais les cadres législatifs, en général, sont relatifs à un pays et qu'il suffit, par exemple, de s'adresser à un site francophone, belge plutôt que suisse, et déjà, la législation change. Donc, c'est très compliqué de définir une législation qui soit homogène pour tous les sites. Ce qui m'intéresse le plus, éventuellement, c'est l'obligation que certaines plateformes, que certains sites doivent, à mon sens, accomplir. C'est-à-dire, c'est de donner des informations transparentes, notamment sur l'usage des données que les patients peuvent générer sur les sites. Aujourd'hui, il y a plein de communautés qui demandent à l'inscription du patient de cocher les conditions générales de participation. On les lit très peu. En général, on coche et puis on passe directement à l'action. Et en fait, on ne se rend pas compte que des fois, les données qu'on livre à la communauté, on pense qu'elles restent uniquement partagées par les membres de la communauté. Et en fait, ces données-là sont réutilisées pour créer des rapports qui sont vendus à des acteurs privés. Alors, pour cela, à mon sens, c'est nécessaire qu'il y ait un consentement exprimé, précis, sur l'usage des données qui sont livrées aux plateformes.
Vous avez tout à l'heure mis en garde contre certaines dérives, parmi lesquelles le risque de prendre tout pour argent comptant ou de faire des transferts d'un patient sur sa propre expérience. Dans les dispositifs à l'œuvre aujourd'hui, comment est-ce que l'on pourrait davantage formuler des mises en garde pour les internautes santé sur ce type de dérives éventuelles?
On revient à la question de l'éducation. Mais je pense que ce qui serait très, très intéressant, c'est que les médecins, carrément, que ce soit le médecin généraliste ou le clinicien, entament une discussion sur l'usage d'Internet avec le patient, avec probablement une orientation vers les sites qu'ils pensent être intéressants, que les associations aussi entament cette discussion pour pouvoir donner des repères à l'internaute qui débarque sur cet univers de la santé qu'il n'avait pas probablement parcouru auparavant, et pour lui indiquer quelles sont les bonnes références, quelles sont les bonnes démarches à prendre. Je pense qu'effectivement, il y a une responsabilité de la part des professionnels de santé et de la part du monde associatif dans cette éducation du patient.
L'Internet santé s'est considérablement développé ces dernières années. On a déjà observé des avancées considérables. Comment voyez-vous ces technologies continuer d'évoluer dans les années à venir ?
Ils seront d'autant plus présents que déjà aujourd'hui, on vit avec des téléphones dans la main et qu'on les saisit, on les consulte à plusieurs fois par heure. Donc évidemment, la présence de ces dispositifs aussi dans le contexte de la santé sera de plus en plus forte. Donc, que ce soit des applications pour nous aider à maintenir une bonne relation avec la prévention, que ce soit des dispositifs pour pouvoir nous orienter au sein du système de santé. Je pense par exemple au site que l'Agence régionale de santé souhaite mettre en place et qui est une sorte de boussole GPS santé pour pouvoir orienter tout nouveau patient ou patient établi vers les bons un droit de prise en charge. Et puis, surtout sur le suivi à distance, parce que si aujourd'hui, par les contraintes économiques qu'on a, le transfert à domicile est bien anticipé dans la durée de l'hospitalisation et il est souhaité, il faut que pour cela, les patients soient accompagnés. Et donc, le numérique, les technologies numériques, forcément seront sollicitées pour pouvoir assurer que ce lien avec la structure hospitalière se continue à se faire malgré l'éloignement physique.
Vous venez de nous expliquer ce qui était dans les tuyaux, hein, si j'ose dire. À titre personnel, vous, quels sont vos souhaits ?
Pour moi, le souhait, c'est que les patients ils soient le mieux traités possible, qu'ils soient entendus, qu'ils soient interpellés dans l'élaboration des projets, parce que on ne crée jamais un bon service sans que le destinataire de ce service ait exprimé ses préférences. Donc pour moi, les nouvelles technologies restent un outil, mais ce qui est fondamental est que les patients reçoivent toujours, dans le futur, les bons soins au bon moment, là où ils sont, et avec une couverture qui soit la plus élargie possible.
Pour conclure sur les sujets que nous avons évoqués, est-ce que vous avez des recommandations de lecture ou des recommandations de sites internet à consulter ?
Bien évidemment, un site que je recommande, c'est cancercontribution.fr. Et puis, évidemment, le site de Tribu Cancer. Puis voilà, il y a des sites comme le site de la Ligue contre le cancer, qui a plein d'informations utiles. Il y a des sites aussi de partenaires industriels qui sont intéressants. Surtout, il faut savoir de quelle nature sont ces sites. Simplement ça, il faut savoir connaître la nature de ces sites, qui sont les acteurs qui sont derrière ces sites, et puis une fois qu'on sait d'où ils viennent, voilà, on cherche les informations et on les utilise comme on le souhaite.
Merci beaucoup Giovanna Marsico pour le temps que vous nous avez consacré. Merci aussi à l'Institut Gustave Roussy de nous avoir accueillis. Enfin, merci à la Fondation Roche pour son fidèle soutien. Je rappelle l'adresse web de votre société de conseil, www.patientandweb.com. Vous venez de nous donner l'adresse web de Cancer Contribution. Et puis un autre site web à retenir, évidemment, celui de Bulle Santé, www.bullesante.com, où vous pouvez consulter tous nos podcasts et puis poser des questions à l'attention de nos prochains invités. À très bientôt.